Olivier Juste, Rose Souci. Rose Souci, c'était bien son nom, je ne l'invente point. On pourrait le croire tant il allait juste à sa figure rose, très rose, avec un fond brun, qui, soit naturellement, soit par la faute ou par la grâce du soleil, passait même au doré, presque à l'or pur, autour des yeux, très noirs, et à la racine des cheveux encore plus noirs, et qui bouclait à ce que Campagne ne l'ait pu défriser. Du reste, maigre et petite, mais lancée, bien prise dans sa petitesse, qui, pour achever de se faire pardonner, ne l'avait point lâché en route, mais gentiment suivi jusqu'au bout, c'est-à-dire dans ses mains sans gants et ses pieds enfouis en de gros petits souliers. À ces derniers traits, on comprend déjà que les vagues teintes dorées qui de ses tempes venaient expirer dans le rose brun de ses joues étaient le seul or qu'elle posséda. Elle n'en avait point d'autre en sa bourse, et même elle n'avait point de bourse. Toute espèce de porte-monnaie eût été pour elle un meuble inutile. Son père, Jean-Pierre Souci, d'une famille connue dans le pays, mais non pas aussi répandue que l'autre du même nom, la Grande, dont au reste il faisait aussi partie. Son père, disons-nous, possédait pour tout bien une maisonnette au haut et un peu à l'écart du village, quelques bouts de terrain plus ou moins hypothéqués, 4 chèvres et une demi-douzaine d'enfants, dont Rose était l'aînée et de beaucoup la plus sage. Ses frères et sœurs étaient difficiles à conduire, plus même que les chèvres qu'elle menait par maître en ce moment. Mais celle-ci ne devait pas se montrer si facile que d'habitude ce jour-là. Comme la jeune fille arrivait avec elle sur une pente herbeuse, boisée ou plutôt buissonnée par le haut, y arrivait aussi, en sens opposé, un vieux monsieur avec son chien noir et blanc, un long poil soyeux, qu'il faisait ressembler à un manchon courant à 4 pattes. C'était son compagnon fidèle dans ses promenades autour du village, lorsque de temps à autre il y venait passer l'été. Ces jours qu'il faisait assez souvent régulièrement, autrefois, mais qu'il avait dû interrompre pour les années précédentes. À cette rencontre inattendue et brusquée par le tournant des collines, les chèvres de lever la tête, le chien de lever le nez, et du même coup, la voix et les jambes qui lui lançaient à fond de train avant que son maître pût les retenir. Et les chèvres de s'éparpiller à grands bonds sur la pente, en y faisant résonner leurs grelots et leurs bêlements entremêlés. La jeune fille courut prestement après ses chèvres, le vieux monsieur après son chien, moins prestement, il est vrai, mais avec assez d'ardeur pour que son chapeau s'envola de sa tête et se mit à rouler, rouler, faisant de si belles cascades et courant de si larges bordées, qu'il eût été en un clin d'œil au fond de la vallée sans une bonne vieille haie qui se trouva juste à point pour l'arrêter au passage. Mais là, nouveau péril. Une des chèvres se mit à flairer cet objet étrange qui semblait avoir cru comme un chou pommé dans un coin de la haie. Allait-elle y porter aussi la dent ? La jeune fille en eut l'idée, car après avoir bien ri de la fugue du chapeau, le vieux monsieur encore mieux. Tout d'un coup, elle ne rit plus, et en quelques sauts, elle arriva juste à temps pour soustraire le fugitif à celle qui y promenait de plus en plus résolument la barbe et le museau. Elle le dégagea de la main et, le tenant à la main, acheva de rassembler ses chèvres avant de remonter. Mais l'une d'elles, une toute jeune chevrette, plus effrayée que les autres, ne se laissait pas faire et voulait toujours s'écarter et se tenir à distance. De guerre lasse, elle la prit dans ses bras comme une jeune mère eût pu faire de son nouveau-né, et sans paraître fatiguée, mais plutôt souriante de ce joli fardeau. « Et le chapeau ?» demandera peut-être quelqu'un, attentif à tout observer, je ne dis pas à tout critiquer. Abandonné de nouveau à lui-même, le chapeau va-t-il encore caracoler sur la pente et recommencer ses fredaines ? Non, certes. Ne pouvant plus l'avoir à la main, la jeune fille l'avait bravement sur la tête. Remplie et retenue par cette épaisse chevelure un peu hérissée, dont quelques boucles jouaient et remontaient même sur les bords, ne faisait point si mal en guise de cadre jaune paille autour de ses cheveux noirs, de ses yeux brillants et de ce teint de bistre carminé. Il faisait si bien même que le vieux monsieur, demeuré plus haut pour calmer et retenir son chien, contemplait fort, sinon le cadre, au moins le tableau, le portrait qui s'y dessinait. Si bien encore que lorsqu'elle s'arrêta devant lui sans mot dire, mais inclinant la tête pour lui rendre le chapeau, il ne le prit point, le laissa où apparemment il le trouvait mieux que sur son chef grisonnant, et se mit à caresser le chevreau que la jeune fille tenait toujours dans ses bras. Le chien aurait bien voulu en faire autant à sa manière, mais hein, couche-toi ! Le tenait aussitôt en respect, car il obéissait toujours à cet ordre, excepté lorsqu'il avait pris les devants pour ne pas avoir à l'exécuter. Bref, quoique tout cela ne dura pas bien longtemps, la jeune fille avait toujours le chapeau lorsque les sons d'un instrument vinrent tout à coup détourner l'attention des deux acteurs de cette petite scène, avant que la naïve timidité de l'un et la naïve contemplation de l'autre l'eussent rendue un peu moins silencieuse. Cette fois, ce n'était plus un vieux monsieur, mais un jeune qui arrivait. Il n'avait pour tout instrument qu'un de ces fagiolets qu'on peut se procurer pour quelques centimes, mais qui, sous ses doigts, n'en jouait pas plus mal. Comme au vieux monsieur son chien, c'était à lui son compagnon de promenade. Dès qu'il se croyait ou se sentait bien seul dans la campagne, il le tirait de sa poche et, comme s'il n'eût fait que siffler, mais mieux et plus hautement que des lèvres, il y jouait les motifs et les airs, gais ou tristes, qui lui venaient à la mémoire, selon le sentiment que les lieux lui inspiraient. N'est-ce pas Mozart qui, lui-même, aimait tant à écouter les sons lointains d'un hautbois dans la campagne? Non, ici, ce n'était qu'un flageolet. Mais Mozart en eut certainement éprouvé quelque chose de pareil. Lorsque, sans le vouloir, le musicien, on entendait ainsi tout à coup cette voix rustique s'élever du fond des prés ou des bouquets d'arbres, courant dans leur sommet, on lui dit que c'était la nature elle-même qui se mettait à chanter d'une voix agreste et pure comme elle. Mais si le musicien apercevait d'autres promeneurs, vite le flageolet rentrait dans son gîte, et il semblait alors que c'était la nature qui se taisait. Ce fut donc les mains dans les poches et de l'air le plus innocent du monde, à l'endroit de la musique du moins, qu'il continua de suivre le sentier au bord duquel la jeune fille et le vieux monsieur étaient encore debout, dans la même position, seulement la figure tournée de son côté, parce que c'était de là que leur étaient venus les sons. Ni l'un ni l'autre n'avait rien dit pour mieux écouter. Maintenant, la jeune fille recommençait à incliner sa tête frisée. « Voilà votre chapeau !» dit-elle. « Merci, merci. Sans vous, il aurait bien pu voyager jusqu'au Rhône, à cheval sur le dos du torrent, s'il ne s'y était pas noyé. » Et quoique toujours d'un air de regret, il se mit pourtant en devoir d'ôter le chapeau de sa position temporaire pour lui rendre sa place habituelle. Mais les cheveux bouclaient et gonflaient si bien dans la coiffe et s'enroulaient si capricieusement sous les bords que l'opération ne se fit pas toute seule, d'autant plus que la jeune fille ne pouvait y aider avec son blanc fardeau sur les bras. Enfin, le chapeau fut dégagé, mais non sans un éparpillement soudain et comme un rejaillissement des boucles noires, heureuses de se retrouver libres et au grand air. Le jeune homme, qui de loin les avait déjà regardées et en oublié son flageolet, les regarda encore mieux, car il vint juste à passer au moment où leur flot emprisonné reprenait son cours naturel. Il salua le vieux monsieur qui le connaissant déjà, lui rendit amicalement son salut. Puis, avec un long regard encore, mais non plus à la même adresse, il poursuivit son chemin. Quand il eut disparu, on entendit s'élever du creux des vallons l'air doux et frais, tendre et joyeux, de la cavatine de la somnambule, mais qui s'interrompit tout à coup et comme volontairement coupé avant la fin. Bien que le chapeau jaune paille ne fût plus sur la jolie tête brune, son propriétaire n'en regardait pas moins celle-ci, au point que la jeune fille, sentant bien n'avoir pas à en rougir, se mit à rire. Le vieux monsieur en fit autant d'un air de bonhomie. « Vous riez parce que je vous regarde, lui dit-il. « Oui, pour vous moquer de moi, puisque de me regarder vous fait rire. « Non, reprit-il, c'était pour vous reconnaître. « Oh, il me semblait bien, maintenant j'en suis sûr, vous êtes au souci. « Et vous, monsieur Darvet, je vous avais reconnu tout de suite. « Oh, c'est qu'à mon âge, on ne change guère, jusqu'à ce que l'on change tout à fait. « Vous me trouvez donc bien changé, fit-elle, sans y joindre d'ailleurs aucune moue de coquetterie. Le caractère pittoresque de sa figure et de tout l'ensemble de sa personne, la mettant plutôt en dehors du goût commun en fait de beauté, surtout du goût campagnard, qui estime plus le robuste et le fort que le délicat et le fin, elle devait bien se sentir plus ou moins différente des autres. Mais elle ne se savait pas belle, et ne passait point pour l'être, seulement pour une intelligente et singulière fille. Comme il faut cependant que la femme, et même l'être humain en général, se retrouve partout, peut-être bien y avait-il un peu de curiosité humaine et même féminine dans son observation. « Vous me trouvez donc bien changé ?»« Mais je vous trouve grandi, répondit celui-ci, dont elle vient de vous apprendre le nom, monsieur Darvert. » La dernière fois que je vous ai vu, continua-t-il, vous étiez encore un peu une enfant. À présent, me voilà tout à fait grande fille. Grande, répéta-t-elle. Oh, comme si je ne savais pas que je suis trop petite. Tout le monde me le dit. Qui, tout le monde? Mais nos voisins, nos voisines, les filles de mon âge, surtout les plus grandes. « Mais les garçons, » fit bonnement M. Darveil, qui de sa nature était un peu questionneur, « mais les garçons aussi, mais pour cela m'est bien égal, ils ne savent que boire et dire des bêtises. « Mais je les trouve bien malhonnêtes, » fit M. Darveil. « Oh, quelquefois moi aussi, » dit-elle de son air décidé presque. « N'y a que Siméon Furet, » ajouta-t-elle du même air. « Ah, il y a Siméon Furet. Oui, qu'il pense comme les autres, mais qu'il ne l'a dit, du moins, jamais dit. Eh bien, cela me donne déjà meilleure opinion de lui. Fit-elle. Il s'était assis, elle, sur la pente gazonnée, et pour se reposer, ayant mis le chevreau sur ses genoux, lui sur un tronc de mélèze coupé presque à ras du sol. Le chien à leurs pieds est maintenant bien tranquille, tout à cet entretien inattendu comme était son maître, et comme il semblait l'être aussi, ne voyant point par là d'écureuils à poursuivre d'arbre en arbre, sans pouvoir l'en faire descendre malgré ses plus beaux appels. Tenez, reprit-elle aussitôt, vous ne me faites plus d'amitié comme quand j'étais toute petite. Mais c'est égal, j'ai confiance en vous, et je suis sûr que vous n'irez pas le redire. Je voudrais aller en service pour en finir avec Siméon Furet qui m'ennuie. Ne pourriez pas me trouver quelque place à Lausanne ou à Genève? On dit que vous y avez tant d'amis. Une place? Oui, de femme de chambre ou de cuisinière. Quoique chez nous, on ne fasse pas beaucoup de cuisine, mais j'apprendrai. On peut tout apprendre, n'est-ce pas, quand on veut bien s'y mettre. Et vous verrez, je m'y mettrai. Mais vos parents, oui, me laisseront libre, quoique ma mère prétende qu'il vaut mieux pour une fille qu'elle se marie. Avec Siméon Furet, oui, il l'a entortillé. Et c'est pour cela aussi que je voudrais aller en service. Bientôt, tout de suite. Mais je ne sais personne en ce moment, parmi mes connaissances, qui ait besoin d'un domestique. Eh bien, fit-elle, sans beaucoup plus d'hésitation, on dit que la vôtre vous a quitté, et si vous me preniez à l'essai, à la pension où j'étais quelquefois l'année dernière, vous ne passez pas pour gourmand ni difficile. Je vous ferai au moins de bonnes soupes et je saurai bien ne pas brûler le rôti. Votre confiance, dit M. Darvet, d'un ton doux et sérieux, sans la moindre trace d'ironie, quoiqu'il en eût parfois sur les choses et les hommes plus qu'il ne le voulait, votre confiance me touche et me rend peu à peu toute l'amitié que j'avais déjà pour vous quand vous étiez enfant. Je voudrais donc bien vous être utile. Mais quelque chose me l'a dit aussitôt que je vous ai revu, fit-elle simplement. Mais, reprit M. Darvet, il y a une difficulté à votre projet. Laquelle? Mais c'est, continua-t-il du même ton de bonté souriante, mais sans raillerie, c'est que je ne suis pas marié, et qu'il n'y aurait point de femme à la maison pour vous conduire, et que je ne puis avoir pour bonne qu'une vieille fille. Ah oui, je n'y avais pas pensé, dit-elle naïvement. Oui, une vieille, toute vieille fille, répéta M. Darvet. Vous ne voudriez pas l'être, ajouta-t-il, d'un air un peu moins sérieux, quoique toujours sans moquerie. Qui sait? Quelquefois, au contraire, je voudrais être déjà vieille, pour qu'on me laissât tranquille et qu'on ne me regardât plus, comme Siméon Furet, mais comme d'autres aussi. Ces derniers mots, jetés d'un ton net, quoique à demi-voix, comprenaient-ils dans l'ensemble ou même regardaient-ils directement le jeune homme au flageolet? Elle n'en laissa rien voir, n'y voyant probablement pas plus clair, et comme M. Darvet, qui avait eu quelque idée de ce genre, allait essayer d'en reprendre le fil pour le rattacher subtilement à l'entretien, elle se leva, laissant ce fil en l'air, rassembla ses chevilles, ses chèvres et dit qu'elle devait les conduire plus loin. Oh, je ne m'en repens pas, mais jamais je n'ai parlé à personne comme à vous, ajouta-t-elle seulement. Oh, soyez sans crainte, ma chère Rose, et comptez que tout ce que je pourrais faire pour vous être utile, je le ferai. Merci. Lui tendant sa main brune et fine, elle s'élança sur la pente, d'un pas non moins sûr et léger que celui de ses chèvres bondissant autour d'elle, et ses boucles noires, sautelant aussi comme un autre petit troupeau, sur son cou nu, bruni seulement par le soleil. Les jours suivants, M. Darvet, au souci, se rencontrèrent plus d'une fois dans les 1001 sentiers qui se dévident autour du village, elle y dévidant le premier fil de sa vie, qui semblait ne plus vouloir aller tout seul, et lui au contraire, ce dernier écheveau qui ne se déroule que trop vite, mais il l'espérait pour s'enrouler mieux ailleurs. Ils causaient un moment, puis chacun reprenait le cours de ses idées et de son chemin. À vrai dire, ces entretiens étaient souvent interrompus ou suspendus par le flageolet qui venait y faire sa partie, mais à distance et toujours invisible. Un jour pourtant, il apparut à la ligne d'horizon, très rapproché d'ailleurs, et même on vit s'y dessiner celui qui en jouait. Ainsi que nous l'avons déjà dit, ce dernier interrompait volontiers ses chants les plus beaux, les laissait inachevés et se taisait brusquement d'un air de fâcherie. Quand elle l'aperçut, Rose Soucy fit comme lui. Elle rompit soudain sa causerie avec M. Darvet et s'éloigna, chantant ou non, mais comme un rayon de soleil qui remonte les prés et ne laisse que l'ombre après lui. J'aime mieux ça, dit le joueur de flageolet, en jetant son chapeau par terre quand il y joint Monsieur Darvet. J'aime mieux ça. Mais qu'aimez-vous mieux et qu'y a-t-il, mon jeune ami Gratien? Demanda Monsieur Darvet, resté tranquillement à sa place. Je suis amoureux de cette petite fille, mais amoureux en perdre la tête et que je m'en vais pour ne pas la perdre tout à fait. Là, qui l'a, elle ou la tête? Demanda gravement Monsieur Darvet, comme s'il était puriste. Toutes les deux, fit avec le même éclat d'âme et de voix celui que son vieil interlocuteur venait d'appeler Gratien. La tête, si je reste ici, ou même sans la voir, je ne fais que penser à elle. Elle, si je parvenais, oh, ce dont je doute, il me reste au moins encore assez de raisons pour ça. Mais enfin, si de manière ou non, je parvenais à m'en faire aimer, sans pouvoir l'épouser, que diraient mes amis et moi-même aussi? Je sens bien dans mes éclairs de sang-froid que c'est impossible. Je ne suis ni un fou, ni un fat. Je veux rester honnête homme et même ne pas devenir fou tout à fait, si je puis. Donc je m'en vais, c'est clair, c'est forcé. Ne comprenez-vous pas? Ben assurément, et j'approuve qui plus est. Puis cependant, calmez-vous. Raisonnons et procédons par ordre. Vous avez commencé par dire j'aime mieux ça. Oui, qu'elle ne fût plus là, qu'elle soit peut-être même enfuie à mon approche. Parce que si je l'avais revue, si elle était restée, si elle m'avait seulement regardé, seulement écouté, vous dire adieu, qui sait, j'aurais pu eu la force de partir, comme au fond je l'espérais. Et vous paraissiez pourtant bien résolu. Vous êtes en tenue de voyage, votre sac est fait et bouclé. Mais je l'aurais débouclé, défait. N'avez-vous jamais fait, défait votre mal, vous? Je vous dis que follement, lâchement, j'espérais me voir retenu. Le moindre coup d'œil le plus indifférent m'eût suffi. Elle n'eût fait que secouer un peu la tête pour rejeter ses cheveux en arrière et me laisser mieux voir sa figure que cela voulait dire ne partez pas et que je serais demeuré cloué sur la place. Savez-vous donc rien de ces choses? Je vais vous oublier. Rien des subtilités, des lâchetés de la passion. Pour moi, je m'y croyais passablement fort en théorie. Mais c'est d'aujourd'hui seulement, et par la pratique, que je m'y connais. Et je ne l'oublierai plus, je vous le jure, si j'en reviens jamais. Mais vous en reviendrez, et on revient de tout dans ce monde, de ce qui n'est que de ce monde. Au souci ne sera plus qu'un souvenir, une apparition originale, je vous l'accorde, mais qui aura fui et ne reparaîtra plus. Bon, je l'espère, je dois espérer, mais je me méfie d'elle et de moi. Je ne veux pas assurer, pas m'assurer surtout à moi-même qu'elle soit là, montrant son cœur, mais là, se frappant le front, elle est là! Elle y restera. Mais je vous répète, mon jeune ami, auquel je me sens encore plus attaché depuis ce que vous venez de m'apprendre, je vous répète que j'approuve votre résolution. Mais voilà, reprit Monsieur Darvet, pour amener dans l'entretien quelques sourires. Voilà, convenez-en, ce que c'est que de courir monts et vaux en jouant du flageolet, au lieu d'y faire des études de peinture. Comme c'était votre dessein. Oui, il n'eût pu manquer que de faire celle de Rose Souci. Croyez-vous que j'en ai pas eu envie? Quel plus charmant modèle, une tête unique en son genre. Mais, ajouta-t-il en hésitant, je n'aurais pas osé la trop regarder, même me l'eût-elle permis. Mais revenons au flageolet. C'est ce qui vous perd, mon cher ami. Il favorise votre penchant à la rêverie. Mais m'a-t-il empêché de faire mon devoir? Non, mais il l'a rendu plus difficile. Et puis, par bons et par beaux, cela non plus ne vaut rien. On a beau vivre dans un pays de montagne, la vie est plate, mon jeune ami, très plate dans ce pays comme ailleurs. Vous l'apprendrez un jour, comme d'autres l'ont appris, quand cela vous sera devenu inutile. Il faut rester dans la plaine, il faut suivre la grande route et le flot pour arriver et réussir. Et que m'importe le succès et la foule, oh du profanum. Oh, c'est encore là un air de flageolet. Oui, de celui d'Horace, qui ne chantait pas si mal. Horace était un malin. Croyez qu'il savait fort bien ne pas jouer de son flageolet pour lui seul. Enfin, j'irai vous voir à Genève, l'hiver prochain. Nous parlerons de tout cela. Et de vos soucis, fit involontairement le jeune homme. Mais non, non, ne m'en dites rien. Certes, sa résolution lui fait honneur, mais la tiendra-t-il? Se demandait M. Darvet quand le jeune homme fut loin. Il descend les prés, il a pris au plus court pour rejoindre la grande route. Oh, je ne le vois plus, mais part-il réellement? Ne reviendra-t-il pas par un autre chemin? Qui sait? Déjà, peut-être ce soir, à la nuit. Mais ni ce jour-là, ni les jours suivants, le jeune homme ne revint. Les rencontres de M. Darvet et de Rose Soucy ne furent plus animées ou troublées par le flageolet. Leur causerie n'en fut que mieux à l'aise, n'étant plus gênée ou brusquement suspendue par ce tiers invisible qui ne laissait pas de se faire entendre et même de se montrer, ça et là dans le lointain. Elle devint de jour en jour plus ouverte et plus libre, à la fois plus épanouie, si l'on peut dire, et plus intime, quoiqu'il n'y fût jamais question de M. Gratien, ni même de Siméon Furet. Pauvre Siméon Furet, et sans doute aussi pauvre Gratien. Il y avait un point, cependant, que dans sa petite tête entêtée, la jeune fille ramenait quelquefois au courant de l'entretien, et que détournait toujours son vieil ami. « C'est égal, je vais bien m'ennuyer quand vous serez parti, » disait-elle tout à coup, ou quelque chose de pareil. Et s'accoudant, elle appuyait sa tête sur sa main, qui disparaissait tout entière dans ses cheveux touffus. « Ce sera trop triste, » répétait-elle. Ah, « je ne peux pas pourtant rester toujours ici. » N'y ait point de maison, répondait M. Darvet. Mais sans doute la vôtre à Lausanne est bien plus belle. Oh, ma chère enfant, je n'ai de maison à moi nulle part. J'ai en loyer un petit appartement, 2 ou 3 chambres, voilà tout. Mais il y a une cuisine? Oui, il y a une cuisine. Jolie? Pas trop, non, elle donne sur une cour. Faut y allumer la lampe de bonne heure en hiver. C'est égal, je serai bien plus triste ici, puisque vous ne voulez pas m'emmener avec vous. Mais ma chère Rose, c'est impossible, je vous l'ai dit, déjà. Mais vous ne pouvez pourtant pas vous passer d'une domestique. Vous devriez au moins en prendre une au village. Il n'y manque pas non plus de vieilles filles, puisqu'il faut être vieille pour demeurer avec vous. Tenez pas des tantes pigeons. Je suis sûr qu'elle ne demanderait pas mieux que de retourner en place. Et par elle, j'aurai au moins de vos nouvelles. Non, non, je ne veux pas de tantes pigeons ni de personne. Comme je ne reste à la ville que l'hiver, une femme de ménage me suivra. Rien qu'une femme de ménage, point de domestique pour vous soigner, fit-elle en laissant retomber sa main. Et ses yeux scintillants, presque humides, fixement ouverts. Oui, ce sera toujours autant d'économiser. Mais je ne suis pas riche, ma pauvre enfant. Je n'ai que quelques écus de rente, dont la meilleure portion doit même s'éteindre à ma mort. Nos villages, on vous dit millionnaire, mais moi je ne l'ai jamais cru. Seulement point de domestique, rien qu'une femme de ménage. Oh, cela me rendra encore plus triste d'y penser. Mais pourquoi le monde regarde-t-il ainsi à l'âge des gens? Vous êtes pour moi comme un père que j'aime presque autant que l'autre, surtout quand il me brusque. Vous, vous ne me brusquez jamais. Et des larmes de feu qu'elle s'efforça de retenir perlèrent sous ses cils longs et baissés. Allons, ma bonne petite rose. Petite, fit-elle pour se remettre à sourire. Ah, vous aussi, je vous y prends. Mais je sais bien que vous ne l'avez pas dit pour me faire de la peine. Avec vous d'ailleurs, je veux être encore plus petite que je ne suis, toute petite, comme quand j'étais enfant. Parce qu'alors, pour sûr, n'est-ce pas, vous m'emmèneriez. Peut-être bien, quoique une enfant et une femme de ménage. Dites oui, sans condition, pour me faire plaisir, seulement. Eh bien oui, ma chère petite bonne mamie, cela va-t-il mieux aussi, fit M. Larvet en souriant. Oh, très bien, votre petite amie, c'est tout ce que je voudrais être, mais comment pourrais-je mériter? D'abord en étant raisonnable. Je resterai ici encore quelques semaines. Nous reposerons de tout cela. Une fois parti, je vous écrirai de temps en temps si vous me promettez de me répondre. Oh, certainement, quoique je ne sache guère écrire des lettres, mais avec vous cela me viendra. Puis, continua M. Larvet, n'avez-vous pas quelques moments libres dans la journée, le matin ou le soir plutôt, quand vous et vos parents êtes rentrés des champs? Oui, le soir, en cause devant la maison, mais moi j'y viens pas toujours, j'aime presque mieux rester dans la chambre. Seul? Non, ma mère y reste souvent aussi, pour accommoder les habits du père et des garçons. Eh bien, si j'allais un peu veiller, comme on dit avec votre mère et vous, je vous lirais et ferais lire, verrais ce qu'on vous a appris à l'école, et tâcherais d'y ajouter quelque chose de ce que j'ai su autrefois. Nous le reprendrons à nous deux. Oh, c'est cela! Fit-elle, oh, quelle bonne idée, et que vous êtes bon, et que je suis heureuse, quand je vais vite apprendre avec vous. Je vous comprends beaucoup mieux qu'un autre, mieux que le régent. C'est cela, répéta-t-elle en frappant des mains et se levant d'un mouvement si prompt que le chien et le chevreau, en bonne amitié maintenant, et couchés à leurs pieds pendant la causerie, se levèrent aussi tout d'un saut, croyant à quelque changement imprévu dans la situation. C'en était peut-être le commencement. L'école du village était bien tenue et Rose Souci en avait profité. Elle y avait assez appris l'orthographe, l'arithmétique, un peu d'histoire et de géographie nationale, la couture, pour laquelle il y avait aussi une sorte d'examen annuel, dont le premier prix se donnait à celle des élèves qui présentait une chemise d'homme entièrement et finement confectionnée de sa main. Rose avait eu le premier prix, et aussi celui du chant, grâce à sa voix juste, d'un timbre pur et mélodieux. Comme toutes ses compagnes, elle la laissait bien un peu trop courir à l'aventure, ou quand elle la retenait, monter et tomber machinalement. Monsieur Darvet, qui ne savait pas un mot de musique, mais qu'elle avait beaucoup entendu, de très bonne, commença à lui apprendre à moduler sa voix, en lui disant et répétant, pour tout conseil, de chanter comme elle sentait, c'est-à-dire du cœur et non des lèvres seulement. Il lui fit faire des exercices de lecture d'après la même méthode, la seule qu'il connût et qu'il appliquait un peu à tout, même au style, car il lui demandait aussi de petites compositions, lettres ou crédits sur les sujets qui lui étaient familiers. Il en corrigeait les locutions vicieuses ou par trop villageoises et de l'endroit. Mais sur l'ensemble, et de même que pour la lecture et le chant, il se contentait de lui dire sans plus de rhétorique « Mettez sur le papier ce que vous avez dans la tête. » Et ne vous tourmentez point pour y mettre autre chose, mais mettez-le en ordre, clairement et naturellement, sans chercher ni pencher à droite ou à gauche, Écrivez, lisez, chantez, d'après quoi, vous-même et non en imitant qui que ce soit. Seulement, rendez-vous bien compte de ce que vous avez à chanter, à lire ou à écrire, afin de l'exprimer le plus près possible pour vous de la vérité. Tel était le grand principe de M. Darveil, à quoi il ajoutait cet autre d'un ordre supérieur. Cherchez, vous trouverez. Non pas peut-être tout, ni toujours ce que vous auriez voulu, mais ce que vous pouvez. Cette méthode, très simple, va peut-être plus à fond qu'il ne semble. Mais il faut savoir la manière de s'en servir. Et M. Darveil, si ingénieux, pour ne pas attarder à embrouiller l'esprit de son élève dans le dédale des règles et des méthodes compliquées. Et cet esprit vierge et neuf s'y prêtait on ne peut mieux. Tout ce que M. Darveil traçait avec douceur et mesure y demeurait imprimé. Ce qu'il lui disait, elle avait comme l'impression de l'avoir déjà pensé. Elle croyait en son maître aussi bien de la pensée que du cœur. Il entremêlait ses leçons proprement didactiques de toutes sortes d'aperçus et de récits sur l'histoire et les choses de la vie, pour achever d'ouvrir cette intelligence naturellement vive et juste à laquelle il ne voulait et ne pouvait donner que l'éveil. Et rien ne plaisait tant à Rose que ses récits. Elle était alors tout yeux et tout oreille afin de mieux comprendre, de mieux retenir. Son affection pour M. Darveil en croissait d'autant. Elle le regardait non pour un génie, ce qu'il n'était point, et le sens de ce mot lui était inconnu, mais pour son bon génie. Aussi, tous les soirs, quand il l'avait quittée, et qu'elle avait encore parlé de lui avec sa mère, priait-elle Dieu de le bénir. Au bout de 5 ou 6 semaines, la fin de la belle saison approchant, M. Darveil dit qu'il partirait le lendemain. Elle pâlit à ce mot. Mais il ajouta que, voulant voir la montagne en automne, il ne tarderait pas à revenir y passer encore quelques jours avant de la quitter tout à fait. Malgré cette promesse de son vieil ami, et quoiqu'elle n'en doutât pas, la jeune fille avait peine à y trouver une consolation. Debout dans le sentier où elle l'avait accompagné assez loin, elle y restait immobile, le suivant sur la pente d'un regard tristement fixe. Tout à coup, elle s'y précipita d'un trait sur ses pas, l'eut bientôt rejoint, et se jeta à son cou, sans s'inquiéter de ce que pourrait penser et dire Siméon Furet s'il était là par là à faire du bois. Le bonhomme Darveil fut bien un peu étourdi de cette subite embrassade, mais le chien, par ses sauts et ses aboiements joyeux, y donna son approbation. Le maître, donc, qui lui passait tout, ne dit rien, et serra la main de la jeune famille, s'en alla en souriant sous sa moustache grise. Il se rendit tout droit à Lausanne, la ville qu'il habitait d'ordinaire en hiver, ayant là de vieux amis avec lesquels il conversait du passé, même de vieilles amies que le présent intéressait bien aussi. Il eut avec une d'elles un entretien, non plus seulement de causerie, mais dont elle ne dit rien à personne, en sorte que pour le moment, je ne peux pas non plus vous le dire. Puis il reprit de nouveau le chemin de fer, descendit à la gare, où des hauteurs on voit la locomotive à 2 ou 3 lieues dans la plaine, fumait en passant comme l'éclair, et monta de son pas appesanti par l'âge, mais encore assez ferme, les longues et raides rampes au-dessus desquelles est perché le village de Rosse-Soucy. Comme si elle eût pressenti son arrivée, elle se trouvait dans le haut sentier, regardant s'il ne venait point. L'automne commençait à faire ruisseler sur les pentes boisées ses cascades et ses nappes de feuillage pour Préor. Mais nous sommes trop pressés pour en faire de description, et nous aimons à croire que le lecteur l'est autant. D'ailleurs, au souci ne les regardait point, elle ne regardait que son vieil ami retrouvé. Celui-ci, par ancienne habitude, y jetait bien de temps en temps un coup d'œil, mais il faisait comme nous, il n'en disait rien. Il ne parlait même pas beaucoup à sa jeune compagne, se contentant lui aussi de la regarder, mais moins souvent. Et plutôt comme pour l'interroger des yeux, sans davantage s'expliquer. En revanche, tout en allant et venant, il eut avec sa mère dans ses fréquentes conversations à eux deux. De plus, ce qui acheva de les mettre au mieux, il lui donnait ses vieux habits déjà passablement rapetassés, mais qu'elle trouvait moyen de rapetasser encore pour son mari. Siméon Furet, toujours à rôder autour de la maison, ne voyait pas de bon œil ces conversations où on ne l'admettait point, et celui à cause duquel, évidemment, on le tenait à l'écart. Il commençait à tourner au vieux garçon, songeait à prendre femme, et naturellement, il en eût mieux aimé une jeune qu'une vieille. Les soucis étant pauvres et chargés de famille, lui, par comparaison avec eux, ayant quelques biens, il espérait aussi arriver à ses fins avec Rose, mieux qu'avec d'autres filles du village, que lui-même trouvait plus grandes et plus belles, mais qui lui seraient envoyées haut la main. La mère, à laquelle il rendait de petits services et promettait monts et merveilles, était capable de céder, de sacrifier sa fille, sans se douter de ce qu'elle faisait. C'était une bonne femme, mais faible et terre à terre. Le père, un brave homme, mais rustre, qui ne s'occupait de ses enfants que pour leur lancer un gros mot à eux et aux coquins de sort, comme il disait. M. Darvet examinait et vit fort bien tout cela, sans en avoir l'air. Rose, avec sa nature fine et même délicate, quoique fortement trempée par la vie de la montagne, ne pouvait évidemment que souffrir et dépérir dans ce milieu vulgaire et brutal. Une fois décidé, il reprit avec Rose, qu'il avait un peu négligé depuis son retour, leurs leçons le soir à la maison, et selon que cela se rencontrait, leurs causeries dans les prés entre chiens et chevreaux, mais non pas entre chien et loup, car c'était en plein jour, au fu et au vu des allants et des venants. Il pouvait maintenant admirer tout à son aise les cimes à demi noyées dans la brume, ou s'y élançant soudain comme des montagnes de lumière qui semblaient vouloir se fondre dans l'azur. Mais quoiqu'il eût pu l'air si pressé, il continuait de l'être au fond et sans beaucoup de paroles, se contentait d'admirer. Rose faisait comme lui, car même lorsqu'il se taisait, se rappelant et retournant dans son esprit ce qu'il venait de lui dire, elle croyait encore l'entendre lui parler. Parfois, cependant, sa vivacité ordinaire reprenait le dessus, et un jour, après l'un de ses silences, elle lui dit tout à coup : « Maintenant, que vous n'aurez plus de bonne, pourquoi ne passeriez-vous pas l'hiver ici? Vous auriez une chambre, une mère, paix, ma mère ou tante Mijon vous ferait votre ménage, puisque vous ne voulez pas que ce soit moi. Elle vous soignerait bien. Et l'hiver à la montagne, dit-on plus beau qu'à la plaine, vous avez le brouillard pendant que nous avons le soleil. Oui, vous devriez rester, pourquoi pas? Voilà ce que je me demande depuis un moment, dans ma petite tête, comme vous aussi vous l'appelez. » Et en même temps, elle la secouait à y dérouler les boucles de sa chevelure, si elles avaient pu se dérouler. Rougissant de la question qui lui avait échappé, elle répéta pourtant d'un ton plus timide et plus doux : « Pourquoi ?» Mais comme se parlant à elle-même. Pourquoi ? Répéta à son tour M. Darvet. Mais parce que je vous emmène à Lausanne. Vos parents y consentent. Nous partons demain. C'est décidé. » Oh, toute saisie, elle resta un moment sans retrouver la voix. Vous m'emmenez ? Dit-elle enfin. Oui, est-ce que cela vous contrarie ? Avec vous, à Lausanne ? À Lausanne, oui, avec moi. Mais vous disiez pourtant, quoi? Mais que je ne pouvais pas être votre domestique. Moi aussi, vous ne le saurez point. Vous m'avez trouvé une place. Oui, chez une dame de mes amies. Y aura-t-il beaucoup à faire? Oui, beaucoup. Des choses bien difficiles. J'ai bonne volonté, mais je sais encore si peu. Vous vous instruirez. Et la maison de cette dame est-elle nombreuse? Oui, assez, une vingtaine de personnes. Oh, tant de monde, jamais je ne mentirai. Très bien, au contraire. Si votre petite tête le veut, et elle le voudra, je réponds de vous à cette dame. Je ferai mon possible pour que vous n'ayez pas de reproches. Mais serais-je capable de suivre des leçons? Certainement. Ne vous ai-je pas déjà mis à l'essai? Des leçons? Répéta-t-elle, ouvrant les yeux tout grands cette fois. Oui, avec les autres jeunes filles. Cette dame a un pensionnat. Arrivé à ce point de sa révélation, M. Darvet eut un de ces longs et silencieux sourires qui lui étaient particuliers. Elle hésitait à comprendre, et le sourire de M. Darvet s'en prolongea d'autant. Mais je crois à tout ce que vous me dites, reprit-elle après cette pause, et comme si elle sortait d'un songe. Mais est-ce possible? Puisque cela est. Oui, cette dame veut bien vous prendre pour élève. Et si vous faites des progrès rapides, comme je l'espère, vous pourrez peut-être lui être utile à votre tour et la récompenser du service qu'elle vous rend. Les yeux de Rose n'étaient plus fixes, ils rayonnaient. Puis tout à coup, elle fondit en pleurs, mais à travers lesquels brillait encore le rayon. Quand cet accès d'émotion et de joie fut passé, c'est trop de bonheur, mais c'est à vous que je le dois, à vous, à vous, à vous, répétait-elle à haute voix, à vous, mon second père, oh, que je vous aime! Puis, avec la même soudaineté d'impressions et d'idées, viendrez-vous quelquefois me voir? Puisque vous connaissez cette dame, vous allez sans doute quelquefois dans son pensionnat. Mais j'y donnerai aussi des leçons aux élèves. Et à moi? Et à vous, puisque vous ferez partie de la classe. Mais ce que M. Darvet ne dit pas, c'est qu'il avait dû consentir à donner un cours aux élèves du pensionnat pour y obtenir l'admission de sa protégée. Oh, il avait assez fait ce métier autrefois pour que, même avec la perspective d'y employer sa méthode favorite, il comptait bien ne plus le faire, mais nul ne peut aller contre sa destinée, qui ne consulte pas nos goûts. Ah, oh, que vous êtes bon, trop bon, répétait-elle, et moi? Et vous, interrompit M. Darvet, allez-vous par hasard devenir méchante à présent, si tant est que ce soit jamais par hasard qu'on le devienne? Je voulais dire, et moi, trop heureuse. Quand on est heureuse, on ne peut pas être méchant. J'ai souvent pensé que mon pauvre père. Mais elle s'arrêta, et pour ne pas rester sur cette pensée qui lui était ainsi venue et qu'elle se reprochait presque. Croyez-vous, dit-elle, qu'on voudra bien me recevoir dans la classe avec mes robes à la paysanne? Je n'en ai pas d'autres, et c'est moi qui me les fais. Oui, certainement, je l'ai aussi posée pour condition. Oh, cette dame est très simple elle-même et comprend bien les choses. Il vous faudra seulement de meilleurs souliers et un chapeau, car à la ville vous ne pouvez aller ainsi tête nue. Mais je vous prêterai le mien, il est à la mesure de vos cheveux, sinon de votre tête. Vous l'avez déjà mis, si je me le rappelle bien. Elle vit qu'il voulait rire, et, causant et riant, ils revinrent à la maison, où dès le soir même elle s'occupa de sa malle, qui fut bientôt faite.